Radio Campus Paris. Il est 20h.
Quand on parle musique, on dit
homme de chef, un saxo, un violon, un piano, des percussions, homme de chef, une guitare, ukulélé. Voilà la bonne idée pour les fêtes de fin d'année.
Et non, nous ne sommes plus dans les années 80. Les spots radio ont changé et Paul Becher a fait peau neuve. Noël s'invite dans nos nouveaux magasins situés en plein centre de Paris à Bastille. C'est dans une ambiance conviviale que nos conseillers prennent le temps de vous aider à trouver et essayer l'instrument qui saura faire rêver. Paul Becher, réveillons votre musique.
Radio Campus Paris.
Il est 20h et tout de suite c'est l'heure de On se lève et on se casse, la nouvelle émission féministe des casseuses d'ambiance de Radio Campus Paris.
Dear fellow feminists, I'm here for all of the witches.
Pourquoi le féminisme ?
Nous, les hommes, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire.
Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes.
Oh, je t'avais dit, elles en veulent au mec.
Le féminisme a donné aux femmes, dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur.
On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné.
Il y a un problème avec monsieur.
Non, il n'y a pas de problème.
Vous aussi, on se lève et on se bat.
Pas du clito.
Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse.
Bim, c'est encore la faute du patriarcat.
Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute.
Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
En 2022, 102 femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint. C'est autant qu'en 2020. On peut donc admirer à quel point le Grenelle des violences conjugales a été un franc succès. D'ailleurs, en parlant de violences conjugales, Adrien Quatennens s'assure que la gifle donnée à son ex-épouse ne constitue pas des violences conjugales et que le féminisme se trompe d'ennemi. Eh bien Adrien, je sais pas quel livre tu lis, mais c'est pas le bon. Ou alors tu louches, je sais pas. En tout cas, faut faire quelque chose, c'est sûr. Faut faire vraiment quelque chose là, parce qu'une gifle, un coup, un comportement violent, même sans toucher ton ex-femme, c'est une violence. Et c'est pas vraiment sujet à débat. Et surtout, surtout, ne donne pas de leçons aux féministes et aux victimes que sur ce que constitue ou non des violences conjugales. On risque de vraiment très, très mal le prendre. On est le 20 décembre et l'année 2022 touche donc à sa fin. Et je pense ne pas parler seulement pour moi quand je dis que cette année a encore été sacrément éprouvante pour les personnes qui se genrent au féminin et même pour les non-binaires et les personnes transgenres en général. On approche à petits pas de 2023 donc, et qu'est-ce qu'on peut se souhaiter aux unes et aux autres ? Peut-être de changer de ministre de l'Intérieur ? Non, c'était une blague. Vous savez bien, ça n'arrivera pas. Soyons un peu plus réalistes. Macron est bien trop occupé à faire des câlins non consentis à Kylian Mbappé et à dépenser 500 000 euros de vol et exploser les compteurs de consommation de CO2 avec ses voyages au Qatar. Bref, voilà, moi ce que je vous souhaite, c'est ça. Je vous souhaite que 2023 soit l'année où les littératures féministes et queer continuent leur floraison et continuent d'envahir les librairies à travers la France. Je vous souhaite encore plus de mèmes féministes pour rire de l'absurdité de notre gouvernement et de nos politiques. Je vous souhaite toutes les formes d'amour qui existent, pas seulement romantiques, je vous souhaite en fait de la sororité à n'en plus pouvoir. Mais revenons-en à notre internet et aux gars bien cringe qui s'y développent comme des bactéries. Dans cette émission, on va parler d'internet, des femmes qui y créent du contenu, plus particulièrement sur Twitch. Ces femmes, on les appelle les streameuses.
Twitch, c'est un service de diffusion de vidéos en direct. Comme YouTube, n'importe qui peut créer sa chaîne. Les spectateurs regardent gratuitement les vidéos et peuvent les commenter en temps réel par écrit. Un chat de discussion est lié à chaque flux vidéo en direct. L'animateur de la chaîne voit les messages et peut y réagir. Et c'est cette interactivité qui rend la plateforme si attractive pour les streamers et les streameuses.
Et sur Twitch, il n'y a pas que des gamers, il y a aussi plein d'autres types de streams, suivant les passions et les centres d'intérêt de chaque streamer. Et vous l'aurez deviné, là où il y a une énorme liberté, comme sur toutes les plateformes en ligne, il y a du sexisme, comme dans l'espace public, il y a du harcèlement aussi. Et il y a des difficultés à contourner pour les femmes qui veulent créer du contenu. On va donc parler de l'expérience des streameuses sur Twitch, et aussi des problèmes de cyberharcèlement auxquels elles peuvent faire face.
En quoi être une femme sur Twitch diffère de l'expérience d'un homme ? Qui perpètre ce cyberharcèlement sur Twitch et ailleurs ? Pourquoi les victimes font-elles l'objet de cyberharcèlement ? Qu'est-ce que la plateforme met en place pour protéger ses streameuses ? On en parle aujourd'hui avec la streameuse partenaire illustratrice et passionnée d'oiseaux Bubuche en bois, de son pseudo. Bonjour Bubuche.
Et on est aussi avec Johanna Soraya Benamrouche, cofondatrice de l'association Féministe contre le cyberharcèlement. Bonjour Johanna Soraya.
Bonjour, merci à toutes et à tous.
Merci à vous. On commence donc à...
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
On commence donc avec des chiffres et l'état des lieux avec cette étude que l'association Féministe contre le cyberharcèlement vient de sortir avec Ipsos. Une étude menée auprès de 216 victimes de cyberviolence âgées de 16 à 60 ans et plus entre le 30 septembre et le 2 novembre 2022. Parmi les données démographiques sur le profil des victimes du cyberharcèlement, on se rend compte que ce sont surtout des femmes et surtout des jeunes. C'est bien ça, Johanna Soraya ?
Et oui, donc cette enquête, elle vient s'ajouter à une première enquête qu'on avait faite, qui était une enquête nationale, un gros panel. Et les personnes qui ont accepté de répondre ont donné pas mal de leur temps et de leur énergie, on les remercie. Et on constate donc que parmi les victimes de cyberviolence, 84% sont des femmes, 58% des personnes minorisées. Et effectivement, 51% d'entre elles sont des personnes de moins de 30 ans. 43% des personnes LGBTQI+, et 22% des victimes de cyberviolence se reconnaissent comme personnes handicapées.
Cette étude, elle a été réalisée avec le soutien de la Fondation Kering et du Fonds pour les femmes en Méditerranée. Alors d'abord, comment vous avez défini le cyberharcèlement dans cette enquête, ou plutôt comment on caractérise une personne victime de cyberharcèlement? Comment vous les avez trouvées en fait, ces victimes?
Alors, on a la chance, du coup, d'avoir une communauté qui est très présente et très active depuis 7 ans maintenant, qui nous suit et qui nous aide à créer des contenus et à rester vraiment au fait des dynamiques. Pour nous, les cyberviolences, ce sont toutes les violences subies en ligne, qu'elles soient sur les réseaux sociaux, par SMS, par des logiciels de surveillance et de tracking dans le cadre, par exemple, de violences au sein du couple. Les violences en ligne, quand on est une streameuse / vidéo, et qu'on se prend des raids. Donc en fait, il y a tous les types de cyberviolences qui ont été abordés et recensés, proposés aux personnes répondantes, aux victimes, et chacune a pu et a eu la chance de pouvoir choisir et expliciter en fait différents types de cyberviolence qu'elle avait vécu pour voir justement à quel point elle se répétait, à quel point certaines étaient très liées à d'autres, et pour essayer de comprendre un peu les ressorts et les types d'oppression spécifiques qui existaient selon les cyberviolences. Par exemple, la culpabilisation des victimes très forte dans le cadre de diffusion de contenu intime, de vengeance pornographique, puisque 70% par exemple des victimes de revenge porn ont été culpabilisées par des proches lors du moment où elles se sont confiées et où elles ont exposé les faits.
On se rend compte que donc les premières, dans votre étude, on se rend compte bien que les premières victimes de cyberharcèlement sont des personnes qui sont minorisées. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve donc le plus souvent comme motif de harcèlement ?
Alors, pour nous, vraiment, cette question du cyberharcèlement, comme dans l'espace tangible, c'est vraiment une question de domination en ligne et de volonté de faire disparaître toute voix dissonante sur Internet. Donc, en soi, c'est le but, le dessein de la cyberviolence, c'est vraiment de faire diminuer, de nuire à la personne qui va être victime et de l'exclure, de la pousser hors d'Internet. Ça amène à l'autocensure, ça amène à une crainte et une hypervigilance permanente sur sa présence en ligne, et ça nuit évidemment à la santé mentale et à l'épanouissement en ligne, mais également à l'organisation de communautés sur les réseaux qui veulent s'auto-organiser et proposer d'autres formes de lutte face aux cis-hétéros blancs triarcats validistes. C'est vraiment une dynamique de pouvoir et d'atteinte systémique à des voix dissonantes.
Ouais, silencieux à tout prix.
Exactement.
Et je me tourne vers toi, Bubu Chambois, justement. Donc, on ne t'a pas dit bonjour, on ne t'a pas eu au bon moment, mais bonjour.
Bonjour.
Tu es donc streameuse et illustratrice, et pas gameuse.
Si, un petit peu, mais c'est pas...
C'est pas ton activité principale.
C'est pas le focus de mon taf, quoi.
Ouais. C'est ça.
Moi, j'accompagne les télétravailleurs le matin avec de l'ornithologie, des documentaires animaliers. Le jeu vidéo, c'est occasionnel, mais il y en a.
Il y en a un peu, j'en ai vu un peu. Et j'ai remarqué que, par exemple, tu faisais beaucoup de visionnage de documentaires, c'est ça ?
Ouais, tout à fait.
Ouais,
okay. Je prends ceux qui sont disponibles et légaux à regarder sur la plateforme. Et puis, j'essaie de rajouter une petite valeur en plus que le React, parce que j'ai, à force d'en regarder tout le temps des documentaires, bah, j'apprends des choses. Et donc, je peux rajouter à ceux qu'on regarde en live. Et puis, voilà, c'est apprendre tous ensemble, en fait. Et puis, comme c'est le matin, c'est mieux de se réveiller avec des animaux mignons que... voilà.
C'est vrai.
C'est bien vrai.
Et en quoi est-ce que tu peux avoir l'impression que ton expérience de streameuse diffère de celle d'un streamer ?
Bah, déjà, si j'avais été mieux armée dès le départ, je pense que je me serais lancée beaucoup plus tôt, mais j'avais peur. Parce que, quand on traîne un peu dans ces sphères, on voit que ça, des témoignages de personnes publiques qui ont fini. Au tribunal parce que juste une seule personne est arrivée sur leur stream et cette personne-là était mal intentionnée, a trouvé leur adresse, a fait des horreurs. Il y a plein de façons que ça tourne mal. Donc quand on s'y met au streaming, on s'arme pour la bataille, quoi. Mais moi, ça va, là.
Toi, ça va. Tu m'as dit que tu n'étais pas vraiment visée par ça, voire pas du tout. Donc tu fais partie des chanceuses de Twitch, on va dire.
C'est peut-être que le matin, les gens les plus hargneux dorment, je pense. J'ai peut-être choisi le créneau le plus calme et le contenu le moins clivant aussi. Donc forcément, j'ai moins d'ennuis que certaines de mes collègues.
Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est une réflexion que tu as eue quand tu t'es installée sur Twitch ? De choisir un créneau, de choisir une passion, ta passion, tu ne l'as pas choisie, évidemment, mais est-ce que tu as réfléchi un peu à la manière dont elle est installée pour éviter ce harcèlement ? Pas vraiment.
C'était plus une peur diffuse, mais c'était plus le fait de pouvoir parler d'ornithologie avec un public qui viendrait de son plein gré plutôt que d'embêter mes amis en permanence. c'était l'attrait du truc pour moi. Mais après, j'ai dû me poser la question, forcément, puisqu'on apprend en s'y confrontant, quoi.
Et le cyberharcèlement, c'est un phénomène qui se répand dans beaucoup de sphères de la société. Par exemple, le harcèlement scolaire devient de plus en plus du cyberharcèlement avec l'utilisation croissante des réseaux sociaux par les élèves. Johanna Soraya, quelles sont là ou les particularités du cyberharcèlement sur Twitch ?
Le cyberharcèlement sur Twitch, il est particulier puisque du coup, il y a un grand, grand, grand nombre de personnes qui sont en live, en direct, ensemble, et que les règles de modération et les process de signalement sont particulièrement cryptiques et longs. La population vraiment ciblée que sont les femmes et les personnes LGBTQI+ sur Twitch subissent en fait des raids massifs, extrêmement violents et parfois coordonnés. Donc malgré le fait que les streameuses, les vidéastes s'adaptent au mieux, s'habillent d'une certaine façon, choisissent le langage, choisissent toute leur rhétorique, leurs gestes, elles sont de toute façon sexualisées, objetisées et elles sont dévalorisées, alors déjà dans leurs compétences, hein, tout simplement leur expertise ça de base, mais en plus elles sont traquées et donc ça nuit concrètement à leur activité. Donc déjà on dit direct, bien sûr avant puisqu'il y a l'appréhension et après puisqu'il y a les conséquences traumatiques et également l'impact sur la vie réelle puisque la communauté du jeu vidéo est très très implantée sur des forums tels que jeuxvideo.com et très organisée sur Discord maintenant également donc il y a vraiment une spécificité qui est l'accès au tech et à chaque fois des parades pour passer au travers des signalements. Donc ça peut être par exemple au lieu que des dick pics soient envoyés, en fait elles vont être dessinées avec des emojis ou des caractères. Il y a plein de parades pour cyberharceler les streameuses.
Des raids de bots qui spamment des menaces de mort, de viol, des horreurs, hein, vraiment. Et puis, j'ai même vu le même raid de bots, mais quand c'était chez une autre collègue, ils avaient rajouté un truc raciste dans l'intitulé. Mais vraiment, ça pouvait être un seul mec comme ça pouvait être un collectif. Enfin, puis ça fait paniquer parce qu'on passe en... Il y a un... un mode emote only, un mode abonné only. Enfin, on a des outils, si vous voulez. Mais sur le moment, quand tu vois une vague d'horreur arriver dans ton chat, c'est pas rassurant, quoi.
Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que toi, tu remarques des particularités à ton cyberharcèlement ? Enfin, du coup, c'est pas le tien, mais c'est celui de tes collègues, de tes amis. Donc, est-ce que, par exemple, il y a un truc très... J'avais entendu dans une interview que c'était particulièrement compliqué de les arrêter sur Twitch parce qu'ils se créaient des comptes sans cesse, ouais, histoire de recommencer à l'infini.
Oui, c'est ça. En gros... On a beau se passer entre nous dans nos propres structures créées pour contrer ça, des listes de pseudos qui ont écrit des horreurs, et les gens ont juste à recréer leur compte. Mais il y a de plus en plus d'outils qui sont créés par des gens en dehors de Twitch, parce que Twitch ne va pas assez vite dans la réaction. Mais par exemple, encore très très récemment, là, j'ai vu passer sur Twitter quelqu'un qui avait fait un complément pour l'outil de Twitch de partage de listes de ban. Donc c'est en gros, on peut d'une chaîne à l'autre s'envoyer nos listes de ban et partager les bans. C'est-à-dire que les gens qui seront ban chez l'un seront ban chez l'autre. Et du coup, bon, voilà, la riposte s'organise, mais il y a tellement à faire.
Alors, dans un reportage de Combini sur le sujet, les streameuses interrogées disent que ce ne sont pas des détraqués, hein, leur cyberharceleur, c'est pas des gens bizarres, plus violents que la normale, ça peut être vraiment n'importe qui. Est-ce qu'on a des données sur les personnes qui perpètrent le harcèlement ?
Alors du coup, on sait que 75%... alors dans les cyberviolences, donc 75% de ces cyberviolences, elles sont perpétrées ou elles impliquent des hommes. Donc là, la dimension genrée, elle est évidente et elle explose, hein, dans cette enquête. On a enfin des chiffres, puisque c'était assez compliqué. Enfin, il n'y en avait pas avant. Et à propos des profils, alors on est souvent là pour Twitch, en l'occurrence, sur des personnes, effectivement, qui peuvent être mineures ou en tout cas qui ont moins de 30 ans. Ce sont les mêmes profils, hein, que les personnes qui cyberharcèlent sur d'autres réseaux, à savoir très souvent des hommes cis, hétéros, qui en fait défendent leur statu quo, leurs espaces en ligne.
Voilà, c'est pas des détraqués, c'est vos frères et vos pères, et c'est des gens normaux, en fait.
Exactement, il n'y a pas, enfin, pour nous, voilà, toute la rhétorique, c'est comme dans la culture du viol en général, quoi. Toute la rhétorique autour des monstres, autour de gens qui seraient pathologisés, donc comme fous, comme détraqués, comme tarés, enfin, plein de termes psychophobes qu'on entend souvent pour traiter de la personnalité des agresseurs. Ben non, en fait, les mêmes qui cyberharcèlent, ce sont des personnes qui agressent aussi sexuellement, ce sont des personnes qui surveillent et qui traquent. Et ce qui ressort aussi, nous, dans notre enquête, beaucoup, hein, c'est que les cyberviolences, en fait, ont un impact sur la vie tangible des victimes et se transforment très souvent en violence physique dans l'espace tangible. Pour 72% des victimes, les violences, elles se sont poursuivies en présentiel. Et une victime sur cinq rapporte un vécu de violence physique et ou sexuelle accompagnant les cyberviolences. Donc, il n'y a pas un profil d'un agresseur qui serait un agresseur que sur Twitch, quoi. Les violences, la façon dont ils vont perpétrer les violences, elles s'adaptent à l'impunité ou leurs opportunités, en fait, de violenter dans la vie physique. Mais évidemment, ce sont des personnes qui agressent par ailleurs dans l'espace tangible.
Oui, le fait que les violences, elles soient aussi concrètes et physiques, on va y revenir juste après, mais d'abord...
On va faire une toute petite pause reportage, une pause voyage même, avec une toute nouvelle rubrique pour notre émission, la chronique Baroudeuse. Je vous explique, Baroudeuse, c'est la chronique qui fait entendre la voix des meufs qui voyagent seules.
Baroudeuse.
Salut Nolwenn.
Salut Pauline.
Alors, c'est qui la première baroudeuse qui va inaugurer cette chronique ?
Alors, la baroudeuse d'aujourd'hui s'appelle Colline. Au début de sa vingtaine, elle voyage toute seule en Asie et se découvre une passion pour la moto.
On écoute ça tout de suite.
J'avais jamais conduit de scooter avant. J'étais même jamais montée, je crois, sur une moto auparavant. C'était une première fois pour tout.
«
Je m'appelle Colline, j'ai 26 ans, je viens des Monts du Lyonnais et je travaille sur Paris depuis 4 ans, mais avant ça, j'ai fait des études et j'ai voyagé. Je suis partie en voyage en 2017. C'était mon premier gros voyage que je faisais toute seule. Je rêvais de partir en Asie, il y avait vraiment un feeling. Et je suis partie avec un billet d'avion aller et pas de billet d'avion de retour. J'ai commencé à voyager par bus principalement au début et par train. Au fur et à mesure sur ma route en Thaïlande au début, j'ai commencé à croiser des personnes qui voyageaient déjà en moto, des personnes aussi qui m'en ont parlé. Et donc ça, c'est une idée qui a commencé à maturer très très doucement dans ma tête, mais voilà, un petit peu timidement parce que je ne m'autorisais pas du tout à me dire que c'était possible pour moi parce que je n'étais jamais montée sur une moto non plus. Et en fait, je suis partie au Laos et je me suis retrouvée dans une petite région vraiment avec personne. Vraiment, je pensais au début que j'étais vraiment la seule touriste. Et je commençais à avoir plus de difficultés à me déplacer dans le pays parce que j'aimais bien aller dans des endroits pas trop, trop fréquentés, pas trop touristiques. Ça commence à être compliqué et en fait, il y a eu un soir où j'ai commencé à avoir le bourdon et je suis allée dans un restaurant que j'avais vu dans la journée et c'est drôle parce qu'en fait, dans ce restaurant, il y avait un groupe de Français-Anglais qui voyageaient du coup en moto et qui m'ont vu entrer et directement, quand ils m'ont vu entrer, ils m'ont invité à manger avec eux. Donc, j'ai fait le repas avec eux. Ils ont commencé à me raconter leur voyage qu'ils faisaient ensemble. Ils étaient trois motards du coup. Et il y a eu une bonne accroche et du coup, ils m'ont proposé de monter avec eux pour poursuivre le voyage avec eux, en tout cas. Du coup, je me suis dit que c'était vraiment de la folie de suivre des inconnus au début. Et puis après, en réfléchissant, je me suis dit, mais c'est vraiment une opportunité de dingue. Donc, je suis montée derrière l'un d'eux. Il y avait deux motos où on était deux personnes dessus. Il y avait une moto où il y avait une personne solo. Et donc, on a conduit ensemble durant tout le Laos. Donc, ça a duré un mois. Et en fait, à la fin du Laos, quand on est arrivé dans les îles au sud, on avait chacun envie de partir dans des directions différentes. Et donc certains ont décidé qu'ils allaient vendre leur moto. Et en fait, ça a vraiment transformé ma manière de voyager. C'était incroyable parce qu'on allait où on voulait. Sur la route, on rencontrait plein de monde. Il suffisait qu'on s'arrête, qu'on aille dans une maison. Les gens venaient nous parler. Tu vas vraiment sur des routes que tu vois jamais. Enfin, t'es pleinement dans le paysage et tu vis pleinement le voyage. C'est vraiment assez incroyable comme manière de voyager. Et du coup, j'étais très triste de me dire, bon, je vais retourner à mon petit bus, mon petit train. Et c'est là où j'ai eu mon petit coup de folie en me disant, mais tu peux pas laisser cette opportunité passer. Donc en fait, j'ai racheté une moto à l'un des voyageurs, qui était la moto la plus facile à conduire. Et je leur ai dit, ben là, maintenant, il faut que vous m'appreniez à conduire la moto. Et donc, j'ai appris à conduire en 20 minutes sur une petite île en faisant des petits allers-retours dans une petite ruelle. Et puis après, j'ai pris un bateau avec la moto et c'était parti. Malgré les petites peurs qu'il y a eu avec les petits accidents, je ne me suis pas arrêtée jusqu'au bout, jusqu'à ce que finalement, la moto, ce soit elle qui me lâche. Il y a eu un jour où... elle s'est arrêtée de rouler et c'était plus possible de la réparer. Donc j'ai fini par repartir à pied et en bus. Et finalement, mon voyage s'est arrêté une semaine après parce que ça m'a un peu brisé le cœur. Et j'arrivais plus en fait à voyager. Après, mes genoux ne tenaient plus. Enfin, je sais pas, il y a eu quelque chose de physique aussi qui s'est un peu brisé. Et je me suis dit, bon, bah, finalement, elle s'est arrêtée de rouler. Bah, moi aussi, je vais arrêter mon voyage ici. Et c'est là où j'ai décidé après de rentrer finalement. La moto, c'était vraiment un moyen de dépasser mes limites, de me permettre d'autres manières de voyager, d'oser aussi aller vers les autres ou dans des coins perdus. Aujourd'hui, je peux dire que cette expérience-là, c'était une des plus belles expériences de ma vie et ça m'a forgée. Et j'ai toujours cette petite fierté de voir quand les gens réagissent en face en me disant « Quoi ? Mais t'as conduit une moto toute seule en Asie ?» Ben, j'arrive à me dire « Ouais, j'ai réussi à faire ça » et c'est vraiment une fierté en tout cas.
Yeah. C'était donc le reportage des Baroudos de Nolwenn. Merci Nolwenn.
Mais avec plaisir.
can bed up, baby, just passing through.
Cold Hearts, la collaboration très anglaise d'Elton John et de Dua Lipa pour se réchauffer.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Nous sommes toujours avec la streameuse et illustratrice Bubuche en bois et Johanna Soraya Benamrouche de l'association féministe contre le cyberharcèlement. Alors, on parlait de violence juste avant la pause musicale. Les cyberviolences s'inscrivent dans un continuum, c'est ce que vous dites, Johanna Soraya. Il faut souligner, ça signifie que la violence en ligne, c'est pas juste une violence virtuelle. Vous avez parlé de conséquences sur la santé mentale, de menaces, voire de gestes violents qui arrivent aussi dans la vraie vie, pas juste derrière l'écran. Un exemple récemment, au mois d'octobre, la streameuse Chiromani a publié une vidéo dans laquelle elle est au téléphone avec un homme qui a récupéré son numéro de portable et qui lui dit qu'il est en bas de chez elle et qui la menace de manière hyper violente. Le virtuel, c'est la vraie vie.
Et oui, c'est-à-dire que on pense, et comme beaucoup, il me semble qu'il faut qu'on arrête hein, de parler de cet espace réel, irréel, et de voir Internet, les dynamiques qui s'y passent comme un truc générationnel, un truc un peu violent, un peu trop fort, un peu fantasque, sensationnaliste. Non, en fait, c'est juste le reflet de tout ce que les personnes vivent et commettent hein, dans la vraie vie aussi. Une insulte au travail, des injures ou des humiliations, elles peuvent effectivement et souvent se dupliquer par des mails, par des conversations collectives avec des propos dégradants et humiliants. Streamer sur Twitch, ça peut amener à être surveillé, être traqué sur Internet en général. Nous, on accompagne beaucoup de militantes qui sont également menacées. Les personnes de leur famille sont menacées, elles ont déjà perdu des emplois. Beaucoup de victimes de revenge porn aussi subissent en fait la diffusion de contenu intime jusque dans leur famille ou à leur employeur. Donc il y a vraiment une continuité qui est totale. Et Internet sert aux agresseurs pour violenter en ligne. Et dans l'espace tangible, on se sert de la connaissance qu'on a de l'environnement de la personne pour la surveiller, la traquer ou la menacer en ligne. Quoi. Donc
C'est difficile de différencier la personne qui va envoyer un message de haine pour se déchaîner sur le moment et qui va jamais agir, et puis la personne qui est super sérieuse. Par exemple, ma copine est streameuse aussi, mais elle fait de la politique, et du coup, il y a beaucoup plus de friction, et des fois, elle reçoit des messages de gens qui veulent retrouver notre adresse pour lui faire du mal, et on n'a aucun moyen de savoir s'il y en a qui sont sérieux ou pas.
Oui. Donc c'est et ça comment vous le gérez au quotidien parce que ça a des conséquences dans votre vie quotidienne.
On fait attention à toutes les informations qu'on lâche et puis il y a les signalements Pharos mais c'est un peu c'est utile jusqu'à un certain point quoi.
Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est les signalements Pharos?
Alors Pharos, que j'aille revérifier pour ne pas dire de bêtises, c'est,
c'est la plateforme gouvernementale, tout simplement.
Oui, voilà, c'est ça.
D'accord.
J'ai cherché la façon de le dire en langage soutenu.
C'est donc une plateforme gouvernementale pour vous aider à vous protéger, à signaler tout comportement agressif sur les plateformes, c'est ça?
Ouais.
D'accord. Okay.
Mais après, si c'est des dizaines de messages par jour et qu'il faut signaler à chaque fois tous les messages, enfin, c'est bon, c'est compliqué, quoi.
Et oui, parce que sur Pharos, on ne peut pas signaler, par exemple, plusieurs messages en même temps. Donc, ça doit être un critère pour chaque message. Et les critères proposés, donc déjà, c'est extrêmement chronophage et c'est impossible dans le cadre de RAID. Et il y a certains critères qui n'y sont pas. Par exemple, on parlait lors de notre space Twitter de toutes les attaques en fait, qui sont faites aux femmes en raison de la forme de leur corps, de la taille de leur corps. Il n'y a pas de critères autour de la grossophobie, par exemple. Donc voilà, il y a des violences qui ne sont pas recensées et sincèrement, les équipes sont très, très, très peu dotées, enfin, en effectif, en moyen. Quoi. C'est ridicule pour
les... Ils ont du retard sur le réel, quoi.
D'accord. Donc en termes d'efficacité, ce n'est pas vraiment encore ça.
Non, pas de moyens, pas d'efficacité.
Et quand même, en parallèle de ça, est-ce que vous diriez qu'on a avancé dans la lutte contre le cyberharcèlement? Parce que par rapport à l'avènement de Twitch, qui a connu un énorme essor, surtout en 2021, avec Samuel Etienne qui arrive, mais notamment, mais pas que, TikTok, etc., les manières de cyberharceler deviennent légion maintenant. Il y en a partout.
Après, moi, je suis arrivée à une période où déjà, ça commençait à s'organiser, mais j'ai trouvé des structures de femmes qui s'entraident. Je suis dans Among Meuf, on en parlait tout à l'heure. Okay. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un collectif de streameuses en non-mixité choisie. Et par exemple, les personnes qui ont créé ce collectif, elles n'avaient pas ces moyens-là pour se défendre, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas de l'aide sur tout ce qui est matériel, de l'aide sur des conseils, si t'arrive ça, moi je l'ai déjà vécu et je peux te dire exactement comment faire pour t'en sortir, etc. Si vous êtes une jeune streameuse et que vous avez peur, il y a des structures de partout, on est nombreuses à se serrer les coudes et vous n'êtes pas toutes seules.
Et là, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, Bubuche, c'est que du coup, les solutions, c'est beaucoup de l'autodéfense en fait, communautaire. Donc, ça repose principalement sur le dos, le temps et l'énergie et les compétences des propres concernés. Donc, c'est compliqué hein, quand on est victime de, en plus, recueillir la parole d'autres victimes et d'être exposé en permanence du coup, aux violences auxquelles on a soi-même été exposé. Et dans l'enquête, nous, ce qui ressort, c'est que 81% des victimes se déclarent mal informées sur les plateformes d'aide. 92% des moins de 25 ans ne sont pas au courant ou très peu au courant de ce qui existe. Et 69% des victimes déclarent ne pas avoir su comment réagir face aux cyberviolences. Actuellement, il n'y a pas de campagne nationale qui existe, et il n'y en a jamais eu, sur les cyberviolences, sur les plateformes d'aide. Et le 3018, qui par exemple est le numéro sur lequel le gouvernement communique, en fait, ça concerne les enfants. C'est-à-dire que si vous allez sur le site du 3018, il y a tout de suite écrit « e-enfance » et vous avez, en fait, on vous envoie clairement le message que la cyberviolence, ça va être le harcèlement scolaire principalement. Et ce n'est pas une plateforme d'aide qui peut accompagner des femmes victimes de violences conjugales ou des personnes majeures victimes de raids en ligne. Enfin, donc, l'état des lieux, il est quand même très critique, en fait. Et il est tellement critique qu'en plus de ça, les forces de l'ordre, entre guillemets, patriarcales, on va concrètement à la police pour essayer de déposer plainte. Donc, on a déjà les screens, les preuves, même si on est passé par l'huissier qui coûte une fortune, qu'on a fait tout ce travail, un tiers des victimes se voient refuser le dépôt de plainte quand ça concerne une cyberviolence. Et c'est d'ailleurs un chiffre qui est étonnamment, pas étonnamment, mais qui est, dans l'enquête ressort beaucoup. Quand on est issu d'une minorité religieuse, on a 4 fois plus de risques de ne pas pouvoir porter plainte. Donc l'accueil discriminant, misogyne et raciste, entre autres dans les commissariats, il est d'autant plus fort quand il s'agit de cyberviolence. Et les plaintes, elles ne donnent pas lieu à des poursuites. 70% des plaintes, elles n'ont donné lieu à aucune poursuite. Donc, même quand on est informé et qu'on se dit « Ok, je vais y aller, je vais porter plainte, je vais prendre un avocat, je vais aller voir une maison du droit, etc. »
Ils vont vous dire « Mettez une main courante » et puis voilà quoi.
Et ouais, il y a très peu de chances que ça aboutisse et donc ça ne protège pas du tout les personnes présentes sur Internet.
Là, récemment, ces dernières semaines, on a entendu Ultia, Magla, on a une présence, on va dire, médiatique de ce sujet-là. Est-ce que vous pensez que cette mobilisation, elle peut faire changer les choses de ce point de vue-là ?
ça a déjà commencé. Je vois notamment que des gens comme par exemple Rebeu des Terres ont parlé de cyberharcèlement sur leur live. C'est des gens qui ont des énormes audiences. Mm-hmm. Donc je veux dire que la parole se délie un peu comme ça, que des outils soient créés. Que, en fait, le fait qu'on ait à s'autodéfendre autant, au bout d'un moment, ça va finir par faire de l'écho, je pense. J'ai envie d'être optimiste. Sur la question.
Ouais, bah, du coup, il y a le gouvernement qui travaille sur cette question, qui a mandaté la DILNUM, donc qui est la délégation au numérique, pour travailler là-dessus. Donc voilà, je peux vous le dire, il n'y a rien de secret. On a été reçus par cette délégation au ministère cette semaine. Et ils ont reçu, ils ont reçu les streameuses, plusieurs associations, dont Stopficha, Frogameuse, Women in Games, je crois, peut-être que j'en oublie.
Des noms que je reconnais.
afin déjà d'essayer de comprendre quelles seraient leurs revendications, nos revendications, et de faire pression sur clairement les plateformes d'hébergement et proposer des solutions rapides et concrètes. Donc on va voir hein, si ça aboutit et ce qu'il en est. En tout cas, voilà, le travail est en cours et en début d'année, il y aura une nouvelle réunion et ils espèrent des assises ou en tout cas un événement afin de poser les revendications sur la table. Nous, bien sûr, ce qui nous fait peur, c'est que très souvent, hein, la solution, c'est la voie punitive. Donc, on dit plus de peine. En fait, là, clairement, ça ne va pas être la solution puisque si derrière, il n'y a pas d'accompagnement des victimes, il n'y a pas un meilleur accès aux droits, il n'y a pas une responsabilité et des contraintes financières qui pèsent sur les plateformes et aussi des contraintes qui pèsent, enfin des punitions hein, sur les agresseurs, mais autre que la voie judiciaire, ça n'aboutira pas à un changement sociétal. Et il en est de même de la prévention, de la sensibilisation. Donc, nous, on essaie de passer ces messages hein, sur l'éducation numérique, sur l'accompagnement aux usages, mais on va voir ce qui en ressort.
En tout cas, oui, il y a des choses qui sont en train de bouger. Et alors, pour rebondir sur ce que tu disais, Bubuche, tu parlais de Rebeu des Terres, donc en effet, 1 million d'abonnés sur Twitch, qui s'est exprimé sur le cyberharcèlement et qui a proposé, pour dire les choses rapidement, que les streamers partagent les blocklists, c'est ça, des streameuses. Ah, vas-y, est-ce que tu peux expliquer ça, entre autres ? Dis-nous.
C'est que... alors moi, en plus, je ne peux pas faire ça parce que je banne des gens pour rire et du coup, ils vont se retrouver bannis ailleurs. C'est compliqué. en gros, sur Twitch, je crois qu'il faut s'ajouter d'abord avec le streamer avec qui tu veux partager la ban list. Et puis, tous les gens bannis chez toi seront bannis chez lui aussi. Après, ça a ses limites, notamment, par exemple, si parfois, t'es dans un trait d'humour et que tu bannes quelqu'un pour rire, non, tu peux plus parce que du coup, ça va lui causer des vrais soucis ailleurs, quoi. Et puis, mais l'intervention de Rebeu des Terres, c'est elle qui a directement causé le post Twitter dont je parlais tout à l'heure. L'outil qui a été créé pour justement améliorer le partage des blocklists, c'était directement cité dans le tweet que c'était suite à l'intervention. Mm-hmm. Et du coup, je sais pas, c'est un peu comme voir un vrai effet sur un truc pas très concret, j'aime bien.
C'est génial.
Et est-ce que, par exemple, là je vais être un peu ennuyeuse, mais pour les gens qui sont pas du tout sur Twitch et qui sont pas du tout qui savent pas ce que ça veut dire ban. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que ça veut dire ban ? Parce que je connais plein de gens qui pourraient écouter et qui... Twitch, ça leur
pas
dit rien
soucis,
et
pas
ban.
en gros, si vous êtes ban d'une chaîne, vous ne pouvez plus interagir sur le chat. Vous pouvez toujours regarder, par contre. Ça, c'est discuté aussi par pas mal. Mais si vous êtes ban, vous ne pouvez plus interagir. Mm. Voilà.
Et est-ce que, par exemple... Je crois que j'avais entendu qu'une personne qui a été ban... va pas se rendre compte forcément tout de suite qu'elle est ban et va continuer à commenter sur le flux d'une vidéo, mais en fait elle va pas se rendre compte tout de suite qu'elle est ban et...
Je sais pas, moi la seule fois où j'ai été ban, ça m'est arrivé, oui.
bravo.
Le chat s'est fermé immédiatement et il y avait marqué vous ne pouvez plus écrire de messages. Okay. Donc pour moi ça a été instantané, après je ne sais pas si ça a changé depuis.
Ok, donc c'est la manière principale que vous avez de vous protéger là, comme ça dans l'immédiat quoi.
Ouais, ça et le chat en emote only. Mm. Les gens peuvent plus écrire des phrases, mais mettre que des emotes. Okay. Ou alors, il y a aussi, il faut suivre la chaîne pour pouvoir parler. Enfin, il y a différents degrés de modération possibles. Mais quand tu essayes de t'ouvrir à une grande audience et que tu réclames d'entrer le follow pour interagir sur le chat, enfin voilà, il y a différents inconvénients qui viennent avec chaque façon de se défendre en fait.
Et le fait de voir des grandes voix du stream s'exprimer, est-ce que, enfin voilà, c'est aussi important les streameuses qui ont témoigné. Dans les médias ces derniers temps, disent aussi sensibiliser vos potes, en fait, enfin, expliquez-leur ou ne leur parlez plus si c'est des connards. Est-ce que, voilà, en gros, est-ce que vous pensez que c'est possible de voir vraiment émerger une solidarité du côté des gens qui ont des grosses chaînes et pour qui c'est pas forcément intéressant, économiquement intéressant, de bloquer plein de gens parce que.
Ah, je pense qu'il y en a certains qui ont déjà commencé à sensibiliser sur la question, mais comme c'est un travail qui n'a pas été fait avant qu'ils aient leur grosse audience, en fait, à mon avis, c'est délicat pour eux, parce qu'à chaque fois qu'ils s'y prennent sans prendre assez de pincettes, ils doivent perdre du monde. Je sais pas, j'ai l'impression que le travail a déjà commencé sur certaines chaînes, les gens changent tout doucement, mais... trop doucement, au goût de certaines, et de moi notamment.
Ouais, ce qui est compliqué, comme tu dis, c'est que en fait, ils ont créé leur communauté sur l'exposition permanente, justement, à ce contenu violent. Ça a galvanisé les effets de groupe, et ça a attiré, en fait, plus d'audience. Donc, ces plateformes-là, en fait, elles gagnent leur argent sur des contenus violents et des moments forts comme ça qui rejoignent la communauté.
Je suis totalement d'accord avec contenu violent, mais j'irais plus vers effet choc.
Ouais, c'est vrai, effet choc. Et donc, en fait, la sensibilisation des communautés, elle peut se faire quand il y a effectivement un avantage à le faire. Donc, parler de ces sujets que les streameuses, les vidéastes elles-mêmes continuent à s'exprimer, elles le font depuis des années, hein, mais s'organisent, dénoncent des pratiques et affichent clairement la complicité de streamers qui ont laissé des raids se passer, qui eux-mêmes ont soutenu des agresseurs, continuent à les suivre. Ça peut faire changer en fait leur attitude. Ça ne sera pas une conscience d'un coup qui arrivera sur « Ah oui, en fait, ça a un impact sur les victimes ». Ils le savent très bien.
Oui, ça va être graduel, hein, de toute façon.
Voilà, elles le disent depuis des années. Donc nous, nos chiffres, en fait, ils reflètent juste ce que les streameuses disent depuis des années. Il n'y a rien d'inédit, en fait, dans ces chiffres-là. C'est juste le fait que c'est une dimension... c'est agréé par Ipsos, quoi. Mais du coup, ils ont l'opportunité de sensibiliser depuis des années. Ils savent depuis des années le coût et l'impact que ça a sur la santé des victimes, leur vie. En revanche, voilà, comme pour les campagnes, je ne sais pas, autour de la sécurité routière, quand il y a un moment, il y a une exposition médiatique collective à un sujet, qu'il y a des campagnes nationales, qu'il y a des événements organisés et qu'il y a une dimension de contrainte, de punition et autres, quand il y a plein d'éléments qui convergent ensemble, là, en fait, pour ces streamers, peut-être que ça sera plus avantageux de porter ses voix et de s'afficher comme des alliés que de rester passif et complice. Donc, c'est ce
les gens vont rarement contre leur propre intérêt, malheureusement.
C'est ça.
Malheureusement. Mais si ça doit avancer comme ça, on le souhaite, du coup.
C'est l'heure de notre deuxième reportage. C'est encore une nouvelle chroniqueuse qui nous rejoint, et c'est Morgane qui va nous parler d'une soirée de drag king à laquelle elle s'est rendue. Salut Morgane.
Bonsoir. Oui, effectivement, je suis allée à une soirée drag king il y a quelques semaines, mais qu'est-ce que c'est le drag king, est-ce que vous savez?
Non, il faut que tu nous expliques.
Eh bien, j'ai la définition. Un drag king, c'est un personnage basé sur des archétypes masculins qui permet de se moquer de la masculinité toxique et de la société patriarcale. On adore. Et c'est aussi un moyen d'expérimenter, de jouer avec le genre et d'aller au-delà des limites. Mais je vais laisser Jeffrey Skerry, organisateur de ces soirées drag my king, Panic Miles, Métamorphose et Cybride des fluides, performer drag, en parler mieux que moi.
Moi j'étais dans le burlesque depuis 2009, j'ai rencontré Louise Deville qui organisait des cabarets drag king en Louis Deville, donc du coup en 2013, donc j'ai créé mon drag king à ce moment-là, et en 2016 j'ai fait mon premier drag my king à la Cantada, donc c'est depuis 2016 en fait, c'est maintenant la 20e édition.
19e siècle. En fait, il y a déjà eu des male impersonators qui ont incarné des chanteurs, donc des femmes, donc incarné des hommes en travesti sur scène. Donc ça existe depuis assez longtemps, oui. Des gens comme Colette qui se transformaient en homme, George Sand, voilà, des femmes qui étaient libres et qui voulaient s'habiller en homme, parce que c'était plus pratique aussi, c'était pas une histoire pour se travestir forcément, mais il y a eu chez Moon aussi à ce moment-là, il y a eu tous les cabarets justement où il y a eu les garçons, enfin, tout le mouvement justement d'incarner des symboles masculins. Et on a besoin de s'exprimer un peu plus, et surtout qu'il y a de plus en plus de bébés kings, de jeunes kings qui émergent et qui ont envie de tester la scène et qui ont envie de s'exprimer, qui sont très très engagés, qui sont politiques, qui sont assez revendicateurs, qui ont envie de dénoncer des choses. Et je trouve ça très important quand même qu'on soit un petit peu plus visible. Il y en a qui font des trucs plutôt comiques, il y en a d'autres qui font des trucs un petit peu plus revendicateurs. De choses importantes, de harcèlement de rue, la condition féminine, des féminicides, des règles, des choses un peu, ce que les femmes ont à subir aussi, des violences, de la transphobie, de l'homophobie, enfin il y a plein de choses. Ils racontent leurs propres histoires aussi.
J'ai jamais été très féminine. Et du coup, ce côté masculin qui était en moi, il était peut-être un peu caché, il était inexploré. Et puis le fait que j'ai trouvé mon personnage, du coup, ça me permet de l'explorer, de le montrer, d'être sur scène, de aussi montrer ce que je peux avoir en tête, les choses pour lesquelles je milite ou que j'ai envie de montrer aux gens. Et ça m'a aussi ouvert quand même d'esprit, forcément, parce que tu as tellement de gens intéressants dans le milieu de drague.
Je pense que le drague, c'est avant tout l'expérimentation, c'est le test du genre, c'est repousser les limites, c'est quelque chose qui n'est pas confortable parce qu'on n'est pas éduqué à ça. Mais à la fin, je trouve qu'on se sent au contraire plus mieux dans sa peau, en fait. Donc ça vaut le coup. J'ai pu prendre une pause sur cette féminité qui m'a souvent oppressée, où je me suis sentie enfermée là-dedans, je me suis sentie victime, je me suis sentie harcelée, et là, finalement, en fait, j'ai pu vraiment respirer. Et en fait, de se poser ces questions-là, d'interpréter différents genres comme ça, ça m'a permis vraiment de faire plus de choses, juste de faire tout simplement ce que j'avais envie, sans me poser la question de « est-ce que c'est convenable ?» Est-ce que c'est mon statut ? Est-ce que je peux le faire ? Mais en fait, est-ce que j'ai envie de le faire ? C'est la seule question qu'on devrait se poser. Ça a changé ma vie. Vraiment, le drag, ça a complètement changé ma vie.
Le drag, c'est pas forcément d'incarner un genre ou une exagération d'un genre, mais c'est plus de pousser les limites du genre, de redéfinir ce que c'est le genre. Enfin, ça, y a autant de drag que de personnes qui en font, en fait, donc c'est assez varié. C'est des espaces, en fait, où on permet aux personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de prendre la place dans leur vie quotidienne, ou que ce soit à travers leur socialisation, de prendre de la place dans ces soirées. Et je pense que ça peut être très important pour beaucoup de gens, et ça apporte beaucoup de choses à la communauté.
Métamorphose et Cybride des fluides. N'hésitez pas à les suivre et à les soutenir, notamment sur Instagram, mais aussi à aller voir des shows de Drag King. Donc notamment la Drag My King où j'étais il y a quelques semaines, mais il y a aussi la King's Factory à la Mutinerie, le Cabaret des Possibles au Café de Paris qui a lieu ce soir même, la mise en drag au Bonjour Madame, mais c'est un vrai bonheur d'y aller, donc voilà, d'où ma confusion. Marche. La Céno King au Céno Bar à Ménilmontant et encore plein d'autres. Et si vous avez envie d'apprivoiser le King qui sommeille en vous, allez voir du côté de la Drag School de Jay des Adelphes, qui propose des ateliers make-up, des cours de danse, et vous saurez tout pour devenir un vrai roi.
Merci Morgane. Alors on est toujours en compagnie de la streameuse et illustratrice Bubuche, et de Johanna Soraya Benramouche du collectif féministe contre le cyberharcèlement.
Alors pour conclure cette interview, on se disait qu'en fait le cyberharcèlement, et plus particulièrement le cyberharcèlement sexiste, au-delà des conséquences individuelles sur les personnes, c'est qu'il rend Internet hostile à une partie de ses usagers et ses usagères surtout. Et ça, Johanna Soraya notamment, c'est pour vous, au collectif contre le cyberharcèlement, c'est inacceptable. Parce que en fait, Internet, malgré tous ses défauts, c'est un espace génial, riche, un lieu d'échange de curiosité et de savoir. Et du coup, c'est un peu injuste de ne pas pouvoir s'y sentir libre et à l'aise.
Et oui, surtout que maintenant, pour faire ses études, pour faire des démarches administratives, pour créer du contenu quand on est artiste, pour tout un tas de choses, en fait, on est obligé de passer par Internet. Donc, on nous pousse à une société qui fait un focus sur les techs, sur le digital. Mais que fait-on, en fait, des dynamiques d'oppression dans cet espace ? Oui, en fait, pour nous, l'épanouissement en ligne, le plaisir, l'entertainment et la possibilité de faire communauté, de reconnaître les siens et de prendre des forces, en fait, c'est tout aussi important et fort que de le faire dans la vie tangible pour énormément de personnes, notamment par exemple des personnes non binaires et trans, pour des personnes qui sont marginalisées, qui sont handicapées. Internet, c'est pas une option en fait, c'est une nécessité au sens où ça ne peut pas ne pas être. Donc pour nous c'est la base quoi. C'est juste un des reflets de nos vies intimes, amoureuses, amicales, sexuelles, enfin. Voilà.
Bubu Chambois, est-ce que tu veux réagir ?
Oui, on a besoin que les personnes invisibilisées soient plus visibles, évidemment. Mais je vais prendre un exemple qui me concerne moi, mais qui n'est pas vraiment sur des minorités, mais genre plus de femmes cringe sur Twitch, donnez-moi plus de femmes cringe, plus de femmes qui mettent mal à l'aise, j'ai envie de voir de l'humour qui met mal à l'aise, décomplexé. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de
limite à l'humour.
Ouais, c'est ça. Ouais. Une femme n'a pas le droit d'être drôle de la même façon qu'un homme est drôle, et je sais pas, j'ai envie de voir des femmes qui s'en foutent de ça. Et il y a beaucoup de collègues qui m'ont décomplexé un peu sur le sujet. Et je sais pas, à partir du moment où on voit que c'est possible, ça devient tout de suite plus simple. Donc pareil pour les minorités invisibilisées, quoi. Il faut qu'elles soient visibles dans l'espace pour que des gens comme elles puissent savoir que c'est possible.
Merci à toutes les deux. Merci Bubu Chambois, on te retrouve sur Twitch. Pseudo Bubu Chambois, justement, ça tombe bien. Et Johanna Soraya Benramouche. On peut trouver plein d'infos, des conseils et du soutien sur le site du collectif féministe contre le cyberharcèlement. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Bonne soirée.
Un plaisir.
C'était
bonne soirée.
Merci beaucoup.
Merci les autres et productrices. J'ai beaucoup appris.
Merci Auréal aussi.
Merci. Bonne soirée.
Bye. Bonne soirée.
Conosco outras vezes, mais um vez, tanto vez, tanto vez. Para Maria que nasce e que em torno a renasce, mundo flama nasce para boa. Deixa um jato, um crê quebra a distância. Um crê quebra a distância. Banha as vasas, cama na boa e bucocha pira de meu. Saliva na minha pé, o manga na pupoca. Esse quem gosta de boa, forte um gosta de boa, amo não gosta de boa. Mas fundo se creu fundia na mi. Pavo nasce de mim, um por dois, por três vezes. Mais um vez, tanto vez, tanto vez. Pra Maria que nasce e que em torno a renasce, mundo flama nasce pra pô. Deixa um tádia, angretádia, 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 tádia pra casar. Pamo aqui no alcer menos, se
già non può essere mas, a voi già può di cumi, si mangia un po' di cubo. E si che ingosta di bo, forte ingosta di bo, amo non gosta di bo.
C'est bientôt la fin de l'émission et c'est l'heure des cadeaux, parce que c'est Noël quand même. Et au cas où, comme moi, vous seriez retardataire et vous n'auriez par exemple acheté absolument aucun cadeau, on va vous donner quelques idées, mais des cadeaux féministes. Donc on va faire un petit tour de table. Nolwenn ?
Alors, moi, comme cadeau, j'ai un essai de Lucie Azéma qui s'appelle « Les femmes aussi sont du voyage ». Je ne sais pas si vous l'avez lu, ce bouquin, qui parle de femmes aventurières, exploratrices, dont on ne parle pas parce que, à l'époque, c'était compliqué pour les femmes de voyager. Et puis, de toute façon, on les a invisibilisées comme d'habitude. Mm-hmm. Donc, on se laisse embarquer dans des histoires de femmes qui ont dû se travestir en hommes pour pouvoir embarquer et voyager sur des bateaux. C'est rafraîchissant, ça donne envie de voyager. Alors, vive les femmes, vive le voyage.
Ouais, je rajoute juste que Thelma et Louise, nos précédentes collègues, l'a reçu, lui, Lucie Azéma, pour son livre, justement. Donc, je vous invite à l'écouter, ce podcast, sur le site de Radio Campus Paris. Morgane ?
Alors, moi, si vous avez des potes un peu witchy, je vous propose de leur offrir le tarot le plus queer de tout Paris, le tarot de Pigalle, qui est illustré avec des créatures qui peuplent les nuits nos plus torrides. Donc, des drag kings peut-être, des drag queens sûrement, des effeuilleurs et des effeuilleuses burlesques. Et tout bien. Ça, c'est le travail de Romain Tiger, qui est aussi effeuilleur burlesque, et qui est graphiste et illustrateur. Et donc, tout ça, vous pouvez le commander sur sa page Kiss Kiss Bank Bank, et ça s'appelle le tarot de Pigalle.
Mmh, on note.
Okay. Très bien, ça donne envie. Et alors moi, ce ne sera pas une nouveauté exactement, c'est un roman qui date de 2014, mais d'une autrice pour qui j'ai énormément d'admiration, Lola Lafon, qu'on ne présente plus. C'est un bouquin qui s'appelle « Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce ». Alors déjà, ce titre.
Ouais, incroyable.
c'est une histoire d'amitié féminine, de révolte. C'est brûlant, c'est émouvant, ça donne envie de foutre le feu, globalement.
Mm-hmm. Ça, c'est
assez
Noël,
concrètement,
c'est
assez littéralement d'ailleurs. C'est super. Donc, c'est chez Actes Sud et c'est super.
Foutez le feu au sapin de Noël, j'ai envie de dire. Enfin, c'est comme ça, c'est l'ambiance.
Ouais.
Je crois que c'est la fin de cette émission. Je crois qu'on arrive à la fin. On va devoir vous quitter. Merci beaucoup, Mao, de m'avoir accompagnée pour
Pauline.
Cette émission. Merci beaucoup au Réal, à Colin et à Julia qui étaient avec nous et qui nous ont réalisé majestueusement cette émission. Merci à Nolwenn pour son reportage baroudeuse. De nous avoir accompagnés. Et merci à Morgane. Merci beaucoup aussi à nos invités, Johanna, Soraya, Benramouche et Bubu Chambois. Merci encore. Salut.
Campus Paris. Il est 21h.
Quand on parle musique, on dit
un saxo, un violon, un piano.